Profitant du bref silence de Delarmy, un autre orateur s'interposa dans la discussion. Il s'agissait de Léonis Cheng, un homme d'assez petite taille, doué d'un savoir encyclopédique sur les détails du plan Seldon, mais affligé d'une certaine myopie quant à son attitude à l'égard de la galaxie réelle proprement dite. Quand il parlait, il avait tendance à cligner rapidement des yeux.
« Il est bien connu, » dit-il, « que dans ces derniers jours, l'Empire tenta de créer une mystique impériale en mettant en sourdine toutes les recherches portant sur les époques pré-impériales. »
Jean Dibal opina. « Mettre la sourdine est le terme exact, orateur Cheng. Ce n'est pas le synonyme de destruction de preuves. Comme vous devriez le savoir mieux que quiconque, une autre caractéristique de la décadence impériale fut un intérêt soudain pour des temps révolus et présumés meilleurs. Je n'avais quant à moi fait référence qu'à l'intérêt pour la question des origines à l'époque de Harry Seldon. » Cheng l'interrompit avec un formidable raclement de gorge.
Je sais tout cela fort bien, jeune homme, et j'en sais considérablement plus sur ces problèmes sociaux de la décadence impériale que vous ne semblez l'imaginer. Le processus d'impérialisation balaya tous ces jeux de dilettantes à propos de la Terre. Sous Cléon II, lors du dernier sursaut de l'Empire, 2 siècles après Seldon donc, l'impérialisation atteignit son apogée, et toutes ces spéculations sur la question de la Terre prirent fin. On édicta même sous le règne de Cléon une directive à ce sujet, qualifiant l'intérêt pour de tels sujets de, et là je pense citer correctement, spéculation oiseuse et stérile, tendant à saper l'amour du peuple envers le trône impérial.
Jean Dibal dit en souriant. Donc ce serait sous le règne de Cléon II, orateur Cheng, que vous placeriez la destruction de toute référence à la Terre.
Je ne tire aucune conclusion. Je n'ai pas dit autre chose que ce que j'ai dit.
C'est habile de votre part de ne tirer aucune conclusion. Du temps de Cléon, l'Empire a peut-être connu une renaissance. Mais il n'empêche que la bibliothèque était entre nos mains, du moins entre celles de nos prédécesseurs. Il aurait été impossible de retirer de la bibliothèque le moindre matériel sans que les orateurs de la seconde fondation en aient connaissance. En fait, c'est à eux que serait échue pareille tâche, même si l'Empire moribond avait dû l'ignorer. Jean Dibal se tut, mais Cheng ne répondit rien, regardant par-dessus sa tête. Jean Dibal poursuivit. Il s'ensuit que la bibliothèque n'a donc pas pu être vidée de ses documents traitant de la Terre à l'époque de Seldon, puisque la question des origines était alors une préoccupation d'actualité. Elle n'a pas pu l'être par la suite, puisque la seconde fondation en avait désormais la charge. Et pourtant, elle est bien vide maintenant. Comment cela est-il possible ? Delarmy intervint avec impatience. « Vous pouvez cesser de broder sur ce dilemme ? On a tous compris. Qu'est-ce que vous suggérez comme solution ? Que c'est vous qui avez dérobé les documents vous-même ? » ?»«
Comme toujours, Delarmy. Vous avez touché le cœur du problème. »
Et Jean Dibal inclina la tête vers elle, avec un respect sardonique, à quoi elle se permit de répliquer en retroussant légèrement la lèvre.
« Une solution possible est que ce nettoyage soit l'œuvre d'un orateur de la seconde fondation. Quelqu'un capable d'utiliser les conservateurs de la bibliothèque sans laisser de souvenirs derrière lui, et capable d'utiliser les ordinateurs sans laisser non plus de traces enregistrées. »
Le premier orateur Chandes devint cramoisi.
Ridicule, orateur Jean Dibal. Je ne peux pas imaginer qu'un orateur puisse agir de la sorte. Quel motif aurait-il, même si pour quelque raison les documents ayant trait à la Terre avaient dû être retirés, pourquoi le dissimuler au reste de la table ? Pourquoi risquer de gâcher totalement sa carrière en falsifiant la bibliothèque quand les risques d'être découverts sont en vérité si grands ? D'ailleurs, je ne pense pas qu'un orateur, même le plus habile qui soit, soit capable d'accomplir cette tâche sans laisser de traces.
Alors, premier orateur, c'est que vous ne partagez pas l'idée de l'oratrice Delarmy que je puisse en être l'auteur.
Je ne la partage certainement pas. Il m'arrive peut-être de douter de votre jugement, mais je n'en suis pas encore à vous estimer totalement fou.
Alors c'est qu'une telle éventualité n'a jamais pu se produire. Premier orateur. Les documents concernant la Terre doivent toujours se trouver dans la bibliothèque, puisqu'il semble à présent que nous ayons éliminé toutes les manières possibles de les avoir dérobés. Et malgré tout, ils demeurent introuvables.
Bon.
Bon, dit Delarmy en affectant la lassitude. Finissons-en. Encore une fois, qu'est-ce que vous suggérez comme solution? Je suis bien sûr que vous pensez en tenir une.
Si vous en êtes si sûre, oratrice, autant que j'en fasse profiter tout le monde.
Mon hypothèse est que la bibliothèque a été nettoyée par un membre de la seconde fondation, manipulée par une subtile force extérieure à celle-ci. Le nettoyage est passé inaperçu, parce que cette même force a justement veillé à ce qu'on ne s'aperçoive de rien.
Delarmy éclata de rire.
Jusqu'à ce que vous le découvriez, vous, l'incontrôlé et l'incontrôlable. Si cette mystérieuse force existait bel et bien, comment auriez-vous fait pour découvrir l'absence de documents dans la bibliothèque? Pourquoi n'avez-vous pas été vous aussi soumis à son contrôle?
La situation n'a rien de risible, oratrice, rétorqua Jean Dibal, l'air grave.
Il se peut qu'ils aient senti, tout comme nous, que toute intervention devrait se réduire au strict minimum. Alors que ma vie était en danger il y a quelques jours, mon principal souci a été d'essayer de ne pas interférer avec un esprit choyen avant de songer à assurer ma protection personnelle. Il pourrait en être de même avec ces gens, sitôt qu'ils ont senti qu'il était plus sûr pour eux de cesser toute immixtion. C'est bien là qu'est le danger. Le danger mortel. Le fait que j'ai pu découvrir ce qui est arrivé peut signifier qu'ils se moquent bien désormais d'être découverts. Le fait de s'en moquer peut signifier qu'ils estiment avoir déjà gagné la partie. Et nous ici, nous continuons nos petits jeux.
Mais quel est leur objectif dans tout ça? Quel objectif peuvent-ils bien poursuivre?
Demanda Delarmy. Elle traînait les pieds à présent, se mordait les lèvres, sentant son emprise décroître à mesure que le conseil devenait plus intéressé, plus inquiet.
« Réfléchissez !» dit Jean Dibal.
La première fondation, avec tout l'arsenal de son énorme puissance matérielle, se met à la recherche de la Terre. Elle fait semblant d'envoyer en expédition deux exilés, dans l'espoir que nous ne chercherons pas plus loin. Mais les aurait-elle équipés, ces exilés, de vaisseaux d'une puissance incroyable? Des vaisseaux capables de franchir 10 000 parsecs en moins d'une heure? Si c'était vraiment de simples exilés?
De notre côté, à la seconde fondation, nous ne recherchons absolument pas la Terre. Et manifestement, on a pris des mesures à notre insu pour nous priver de toute information à ce sujet. La première fondation est à présent sur le point de la découvrir, et nous? Nous en sommes si loin que...
Jean Dibal s'interrompit. Et Delarmy s'écria.
Que? Quoi? Finissez donc votre conte puéril! Est-ce que vous savez quelque chose, oui ou non?
Je ne peux pas tout savoir, oratrice. Je n'ai pas pénétré tous les secrets de la toile qui nous encercle. Mais je sais en tout cas que cette toile est là. J'ignore quelle signification pourrait revêtir la découverte de la Terre. Par contre, je suis certain que la seconde fondation court un énorme danger. Et avec elle, le plan Seldon est l'avenir de toute l'humanité.
Delarmy bondit. Elle ne souriait plus et parla d'une voix tendue mais parfaitement maîtrisée.
Sornette que tout ça. Premier orateur, mettez-y un terme. Ce qui est ici en discussion, c'est la conduite de l'accusé. Ce qu'il nous raconte en ce moment est non seulement puéril mais sans rapport avec le débat. Qu'il ne compte pas faire oublier sa conduite en bâtissant tout un tissu de théories qui n'ont de sens que pour lui seul. Je demande que l'on procède à un vote immédiat sur le fond. Un vote de condamnation unanime.
Attendez, dit brusquement Jean Dibal. On m'a dit que j'aurais la possibilité de me défendre et il me reste encore un point, un seul. Laissez-moi l'exposer et vous pourrez ensuite procéder au vote sans plus d'objection de ma part. »
Le premier orateur se frotta les paupières avec lassitude.
« Vous pouvez continuer, orateur Jean Dibal. Je me permettrai d'insister auprès du Conseil en soulignant que la condamnation d'un orateur suspendu est un acte au sens propre sans précédent aucun et qui se révèle si lourd de conséquences que nous ne pouvons nous permettre de donner l'impression que la défense n'a pu s'exprimer librement. Rappelez-vous également que, même si le verdict vous satisfait, il peut ne pas satisfaire ceux qui nous succéderont. Et je me refuse à croire qu'un second fondateur, quel que soit son rang, et sans parler des orateurs de la table, soit incapable d'apprécier pleinement l'importance que revêt la perspective historique. Agissons donc de manière à pouvoir être certains de l'approbation des orateurs qui nous suivront dans les siècles à venir. »
Delarmy observa avec amertume. « Nous courons le risque, premier orateur, de voir la postérité se rire de nous pour avoir refusé l'évidence. Vous poursuivez l'audition de la défense sous votre seule responsabilité. »
Jean Dibal prit une profonde inspiration.
« Dans ce cas, et en accord avec votre décision, premier orateur, je désirerais appeler un témoin. Une jeune femme que j'ai rencontrée il y a 3 jours et sans laquelle j'aurais fort bien pu ne jamais rejoindre la table du conseil au lieu d'être simplement en retard à la séance. »
« La femme que vous évoquez est-elle connue de la table ?»
demanda le premier orateur. « Non. Premier orateur, c'est une autochtone. »
Delarmy écarquilla les yeux.
« Une choyenne ?»
Eh oui, effectivement.
Qu'est-ce que nous avons à faire de ces gens-là ?
Demanda Delarmy.
Rien de ce qu'ils peuvent raconter n'a la moindre importance. Ils n'existent pas !
Les lèvres de Jean Dibal se retroussèrent légèrement en un rictus qu'on aurait difficilement pu confondre avec un sourire. Il dit avec rudesse :
Physiquement, tous les Choyens existent. Ce sont des êtres humains. Et ils ont leur rôle à jouer dans le plan Seldon, par la protection indirecte qu'ils assurent à la seconde fondation. Leur importance est cruciale. Je tiens à me dissocier formellement de l'inhumanité de l'oratrice Delarmy, et je souhaite voir sa remarque consignée dans le procès-verbal aux fins d'être éventuellement considérée par la suite comme preuve de son incapacité à assumer la charge d'orateur. Le reste du conseil approuve-t-il la remarque de l'oratrice ? Et récuse-t-il mon témoin ?
Appelez votre témoin, orateur,
dit Chandès. Les lèvres de Jean Dibal se détendirent, et ses traits redevinrent inexpressifs comme chez tout orateur sous tension. Il gardait l'esprit en alerte, mais derrière cette barrière protectrice, il sentait que le passage dangereux était passé. Et qu'il avait gagné.